Chers auditeurs, chères auditrices de Med Résistance, émission quotidienne, tous les lundis de 19h à 20h, avec rediffusion le mardi matin de 7h à 8h, sur les ondes de Radio Galère 88.4 à Marseille. Aujourd'hui, nous entamons notre énième émission sur la fin des multinationales et nous allons... Nous faisons la dernière émission du grand confinement, puisqu'aujourd'hui nous sommes le lundi 11 mai. Donc un jour à marquer d'une pierre blanche, alors 11 comme les 11 stations mythiques du Nouveau Testament, en espérant que cela ne va pas nous emmener sur la croix, mais bien au contraire vers davantage de choix. Je le précise bien, c'est très important, je voulais le dire depuis longtemps sur l'émission de Med Résistance Radio Galère. La croix, c'est pas un très bon symbole. Normalement, le symbole du Nouveau Testament et de la folle épopée de certains, c'est d'abord et avant tout le poisson qui évolue dans l'eau, qui est libre et qui est coloré, de préférence dans une eau non polluée. C'est pas du tout la croix. Alors, il faut savoir que je sais pas si le jour du 11 mai a été choisi exprès, mais bon, c'est pas un super chiffre. Alors, on va essayer d'en faire quelque chose de bien. Dans deux jours, c'est le 13. C'est un chiffre très positif. Je voulais juste dire à nos auditeurs de beaucoup se méfier parce qu'actuellement, il y a beaucoup de sectes qui œuvrent un peu de partout. Et beaucoup utilisent le symbole de la croix pour faire croire aux gens qu'ils sont sur Terre pour souffrir. Or, ce n'est pas le cas du tout. Si j'ai fait cette série d'émissions sur les multinationales, et c'est le but de Med Résistance, résister contre des gens qui ont le culot de vouloir maîtriser la vie des autres, c'est justement pour qu'on envisage ensemble des solutions pour ne pas porter sa croix collectivement. Par exemple, vous avez l'Église évangélique protestante, l'Opus Dei, la Scientologie, les Témoins de Jéhovah sont des sectes qui utilisent le symbole de la croix pour vraiment encombrer nos inconscients et nous conditionner au malheur. Il faut accepter le malheur et de porter sa croix sur terre, soi-disant pour aller dans un au-delà hypothétique. En cela, ils ne sont pas très différents de tous ces gens intégristes islamistes qui s'acharnent à faire croire aux jeunes qu'ils recrutent qu'ils vont pouvoir aller au paradis après s'être immolés par le feu ou s'être fait exploser par une bombe dans une station de métro. C'est exactement la même chose. Dans les images faites par l'Église évangélique protestante, qui notamment gouverne beaucoup les États-Unis, vous avez des grands cimetières remplis de croix blanches qu'on montre aux gens lorsqu'on montre des documentaires où on parle de l'amour du prochain ou de la volonté de construire une société positive. La volonté de construire une société positive, eux, ils ne l'ont pas vraiment, en fait. Et puis nous, citoyens, nous ne l'avons pas non plus, puisque nous ne l'avons pas montré, parce que nous nous laissons gouverner par n'importe qui. J'ai vu des émissions de ce genre, très américano-américaines, mais en fait, évangéliques protestantes ou pentecôtistes. J'oubliais de citer aussi les mormons, tout ça, ça va avec, hein, ces mêmes combats, c'est à mettre dans le même sac. Ils sont très nombreux à Marseille. Méfiez-vous, citoyens. Il ne faut pas oublier qu'on est avant tout citoyens et que nous, on ne se laisse pas faire et qu'on n'a pas envie, à partir de ce jour, lundi 11 mai 2020, où on nous laisse sortir après nous avoir enfermés pendant deux mois et nous avoir dit des gros mensonges, il ne faut pas s'imaginer qu'on va... Il faut pas se laisser abattre et il faut lutter pour ne pas jouer le jeu de ces gens qui ont certainement volontairement mis en place un plan visant à propager une pandémie sans qu'on puisse s'en protéger suffisamment parce qu'on n'a pas pris les bonnes mesures au bon moment. Donc cette forme de fatalisme qu'on essaye de nous faire intégrer, elle risque de nous conduire à accepter après qu'il y ait d'autres calamités, pourquoi pas les 12 plaies d'Égypte. Donc faut pas l'accepter et nous, citoyens, nous devons absolument prendre notre société en main et ne plus se laisser faire. on doit exiger des choses sans violence. La violence n'est pas nécessaire, c'est tout le contraire. N'oublions pas que nos pouvoirs publics ont le monopole de la coercition légitime, que seuls eux ont le droit, moyennant certaines conditions, tenant au respect, à l'intégrité de l'État et au respect des institutions et des infrastructures et des citoyens, d'utiliser le monopole de la force publique. Et parfois, ils l'utilisent, de manière un peu trop, un peu inconséquente, il faut bien le reconnaître. Mais cela dit, nous ne devons pas nous laisser avoir. C'est pas parce qu'on n'utilise pas la violence qu'on n'est pas fort et qu'on n'est pas puissant. Entre 1939 et 1945, les Français ont montré qu'ils étaient capables de résister. Ils ont résisté. Comment ont-ils résisté? En sachant frapper au bon moment et au bon endroit, au point où ça ne se passait pas bien. Des fois, il y a des points noirs qu'il faut savoir décrocher si on veut arriver à quelque chose de bien. Je veux dire, des institutions où ça ne fonctionne pas bien, des endroits où il n'y a pas les bonnes personnes, parce que ces personnes-là n'auraient pas dû avoir tel ou tel poste et qu'elles l'ont eu parce qu'elles protégeaient les intérêts de certains. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas la vie qu'ils méritent ou parce qu'on les a empêchés de réussir ou d'être influents, parce qu'ils gênaient aussi par rapport à ce plan-là, il ne faut pas accepter tout ça. Donc c'est pour ça, je rappelle, le documentaire que j'avais vu, un documentaire américain, nous parlait d'une vie meilleure, où nous, citoyens, nous serions plus partageurs. Alors bien entendu, ceux qui partageaient, c'était pas les grands PDG des grandes multinationales, c'était ceux qui n'avaient déjà pas grand-chose. Alors ils étaient obligés de partager. On voyait une grande cuillère qu'on se passait de bouche en bouche. Ça donnait pas envie du tout de se passer les microbes les uns et les autres. Et puis on se partageait une toute petite assiette, alors que le monde est infiniment grand. Ça, c'est la signification de la scène. La vraie signification de la scène, vous avez les 12 apôtres qui sont à table avec Jésus-Christ. Elle a pour signification le partage des denrées, de l'infinité des denrées dans une économie de l'abondance, puisque l'environnement, la terre, nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. Si nous souffrons de pénurie, c'est parce qu'il y a certaines multinationales qui encombrent les marchés, qui empêchent qu'il y ait une libre concurrence avec des petites et moyennes entreprises qui puissent faire se monter librement sans avoir peur de se faire piquer des parts de marché par les multinationales, qu'elles puissent entrer librement sur les marchés. Et c'est aussi, si nous souffrons de pénurie, c'est parce que nous avons abîmé, non seulement parce qu'il y a des gens qui concentrent l'essentiel des richesses et qui en laissent un tout petit peu pour le plus grand nombre, mais aussi parce que nous avons nous polluons, donc nous abîmons la terre et nous réduisons d'autant les ressources qui pourraient nous aider à nous nourrir tous collectivement. Bon, je voulais juste le signaler. Donc, dans ces films faits par la Scientologie ou l'Église évangélique protestante ou pentecôtiste, on accable les gens en leur parlant justement de partage, d'une société meilleure où les gens s'aimeraient tous les uns et les autres, alors même que les gens se haïssent tous les uns et les autres parce qu'ils ne sont pas heureux. Donc ça, c'est une utopie. Il ne faut pas demander aux gens de s'aimer. Il faut d'abord les aider à s'aimer soi-même et à penser à leur bien-être et à ceux de leur famille avant de leur demander d'aider les autres. Parce que les gens qui nous demandent de nous sacrifier ou de partager des ressources entre nous ne se rendent pas compte qu'eux, ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient et qu'ils ne peuvent pas demander ça à des gens qui n'ont pas toujours eu ce qu'ils voulaient, qui ne peuvent pas envisager de construire leur vie ou de réaliser leur projet, ou alors ils le réalisent tard quand ils sont âgés et déjà aigris. Et donc, ils ne se rendent pas compte. Alors après, on montre des champs infinis avec des croix blanches pour montrer aux gens, pour les conditionner, pour leur dire, en fait, voilà, nous vous demandons de vivre dans une société meilleure et de partager entre vous. Acceptez la croix. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ce sont des techniques qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été beaucoup utilisées par les nazis, financées par les Américains, pour conditionner les gens. Et on conditionne les gens à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. on leur monte la tête, en fait. Il n'y a pas vraiment de libre arbitre dans tout ça. Et en montrant la croix, on dit aux gens, acceptez le destin, acceptez la fatalité. Donc nous ne voulons pas accepter la fatalité. Nous venons de faire un cycle d'émissions qui a duré assez longtemps sur les multinationales. Il nous reste deux émissions sur les multinationales. Aujourd'hui, je vais parler des solutions possibles. Donc j'avais déjà commencé à parler la semaine dernière de deux théories, enfin de deux idées importantes. Là, deux propositions de loi qui ne sont pas du tout de moi, hein, qui émanent d'abord d'une part du Parti communiste français. C'est la loi c'est la loi entreprise et territoire que le Parti communiste français propose de mettre en place en utilisant les procédés constitutionnels d'expérimentation sur les territoires, donc l'article 72.2 de la Constitution, une réforme qui date de 2003, je l'ai déjà expliqué, qui est visible également le Code général des collectivités territoriales. Et puis, j'avais cité ensuite la proposition de loi, tout le monde sait que projet de loi, ça émane des ministres et proposition de loi des députés et sénateurs. Alors, je dis, quand je parle de la proposition de loi Viallet-Escarguel, bien entendu, c'est une proposition de loi qui n'en est pas encore une, puisqu'ils se sont contentés de rédiger le corps du texte, mais que pour en faire une proposition de loi, il faudrait qu'elle soit récupérée et défendue par un parlementaire, soit un sénateur, soit un député. Donc c'est le projet, la proposition de loi sur les SCOP, les sociétés coopératives, et également sur les SIC, enfin les nouvelles formes d'entreprises à caractère coopératif. Je l'ai présenté la semaine dernière. Pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas écouté, je leur conseille vivement d'aller écouter sur les podcasts de la radio à Ahmed Résistance sur le site radiogalère.com, et vous avez tous les podcasts et notamment l'émission de la semaine dernière. Voilà. Après ces deux propositions de loi que j'ai citées la dernière fois, je voudrais continuer avec d'autres propositions. Donc, on va aujourd'hui parler de la charte de l'entreprise éthique. Ça, c'est de moi. C'est dans mon livre qui s'appelle. J'ai écrit plusieurs livres d'économie, notamment un qui s'appelle Revenu inconditionnel d'existence, budget et fiscalité. Et un autre qui s'appelle Le nouvel alignement monétaire. Et donc, dans ces deux livres, j'explique ce que c'est que la charte de l'entreprise éthique, parce que si on veut qu'une réforme fiscale, budgétaire, monétaire et économique fonctionne bien, nous sommes obligés de réglementer par ailleurs. Une réforme ne fonctionne jamais toute seule, elle doit faire partie d'un corpus de mesures, un grand ensemble de mesures qui doivent être coordonnées et concertées les unes avec les autres, étendues dans le temps en matière d'objectifs, qui doivent reposer sur le réel, c'est-à-dire la réalité de notre histoire économique et notre histoire aussi culturelle. Et donc, j'ai pensé que si on voulait vraiment faire en sorte que la mise en place d'un revenu inconditionnel d'existence crée des effets positifs dans notre société, et que si on voulait que la sortie de la France de l'euro pour s'aligner sur les taux de change les plus faibles fonctionne correctement et porte ses fruits, il fallait réglementer, et notamment dans le domaine de l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce que j'appelle la charte de l'entreprise éthique, qui oblige nos entreprises françaises à être citoyennes. Si elles veulent être françaises, si elles veulent être sur le territoire français, si elles veulent vendre français, eh bien il faut, à vendre aux Français, il faut qu'elles respectent un certain nombre de principes. Donc je vais vous citer cette charte, elle est un petit peu longue, il y a plusieurs articles. Article 1, l'entreprise française peut être une entreprise individuelle, ou bien une société, une SCOP ou une SIC. Quel que soit son statut, elle favorise la participation des salariés au capital. Article 2. L'entreprise française participe activement à l'abandon progressif des hydrocarbures, des gaz naturels et participe activement à la mise en place du plan énergie renouvelable. Article 3. L'entreprise française ne peut pas faire de création monétaire. Seules les banques centrales ont ce monopole. Seul l'État peut créer de la monnaie. Là, en fait, dans cet article 3, je voulais parler des banques, puisque les banques, il y a beaucoup de banques qui créent de la monnaie en faisant du crédit. Et donc, en faisant du crédit, elles créent de la monnaie. Normalement, la création de la monétaire, c'est un monopole des banques centrales, de la banque centrale. Or, une entreprise qui est aujourd'hui avec la désintermédiation et la globalisation financière peut se permettre de titriser des fonds et de l'argent qui provient de particuliers, elle crée de la monnaie en titrisant. Et donc, normalement, elle ne devrait pas avoir le droit de le faire puisque c'est un monopole de la banque centrale. Seule la banque centrale peut créer de la monnaie. Je continue. Article 4. L'excédent brut d'exploitation est le seul juste instrument de la création de richesses réelles, pris en compte en tant qu'indicateur du même nom dans la comptabilité nationale, ce qu'on appelle l'indicateur brut d'exploitation. Au même titre que le PIB, produit intérieur brut, qui totalise la somme des valeurs ajoutées. Cela exclut les activités à caractère financier exceptionnel qui sont à dissocier de l'activité productive. Donc effectivement, là, en prenant compte uniquement l'excédent brut d'exploitation comme juste instrument de la création de richesses réelles, pour mesurer l'efficience d'une entreprise, eh bien, et les capacités d'une entreprise et sa bonne santé économique, on met un pied sur quelque chose de très important. Parce que il y a beaucoup de grandes entreprises, et notamment les multinationales, qui ont de très bons résultats, mais grâce à leur compte financier, à leur activité financière. Dans le compte de résultats, vous avez trois activités. Vous avez l'activité qui est relative à la production de richesses, donc à ce qu'on appelle l'excédent, qui produit ce qu'on appelle un excédent brut d'exploitation. Vous avez le résultat d'exploitation. Au final, et vous avez le résultat financier qui est la différence entre les produits financiers et les charges financières, et puis vous avez le résultat exceptionnel qui est la différence entre le produit exceptionnel et le résultat financier. Et donc, pour le résultat exceptionnel doit vraiment être exceptionnel. Or, souvent, il ne l'est pas. Parce que, effectivement, une entreprise peut posséder des bâtiments et les louer ou les vendre, ça fait un résultat exceptionnel. Parce qu'elle a vendu un bâtiment ou parce qu'elle a cédé un monopole qu'elle avait sur une innovation scientifique. Ou un brevet, par exemple. Mais normalement, ça doit être très rare. Or, les multinationales savent très bien jouer avec l'activité dite exceptionnelle pour multiplier les produits exceptionnels et avoir un résultat exceptionnel important. Pour le résultat financier, c'est encore pire. Les multinationales qui génèrent déjà beaucoup d'argent en chiffres ont la possibilité de voir une activité à caractère financier prépondérantes. Elles sont à la fois des organismes financiers et des entreprises qui produisent des biens et des services. Elles aussi, elles titrisent, elles agissent sur les marchés financiers, elles spéculent et sur les marchés et donc parfois même sur les marchés monétaires. Donc forcément leur résultat financier est énorme. Donc ça fausse les chiffres alors que normalement le but d'une entreprise, c'est d'abord et avant tout de transformer des matières premières pour créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la richesse. Et donc cette richesse qu'elle crée, elle est uniquement matérielle. Et normalement, ça devrait être le principal poste dont on doit tenir compte pour mesurer la bonne santé économique d'une entreprise. Donc on devrait pouvoir dire aux multinationales sur le territoire français, si on avait des hommes et des femmes politiques courageux, non, vous n'avez rien à faire chez nous, on ne veut pas de vous chez nous, et vous n'avez rien à faire non plus dans notre gouvernance, puisque vous ne générez pas de richesse, vous n'avez pas une bonne santé économique, puisque votre résultat d'exploitation est beaucoup trop important, et n'est beaucoup moins important que votre résultat financier, que votre résultat exceptionnel, alors que normalement ça devrait être votre activité principale. Article 5, l'entreprise française produit de la valeur ajoutée qualitative. Donc j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises ce que c'est que la valeur ajoutée qualitative. Vous pouvez regarder entre février et juin 2019, j'ai fait beaucoup d'émissions dessus pour expliquer ce que c'était. C'est la valeur ajoutée qui ne produit pas d'externalités négatives sur plusieurs plans, pas seulement sur le plan environnemental, sur le plan sociétal, donc les gens entre eux, la qualité de vie des gens, le respect du droit du travail, le respect de l'intégrité, de la dignité des êtres humains. Ensuite, il y a le plan sociétal, qui ne gêne pas aussi les relations au sein de la société et la production d'effets positifs pour avoir une société qui fonctionne, qui est positive, avec un politique qui fonctionne bien, qui coule comme de l'eau. Elle produit de la valeur ajoutée qualitative sans externalité négative sur les plans sociétaux, environnementaux et économiques. Article 6. L'entreprise française est ancrée sur un territoire. Elle a une responsabilité sociale, environnementale et économique sur le territoire. Article 7. En tant qu'entreprise liée au territoire, l'entreprise française noue des relations avec des partenaires du territoire. Article 8. L'entreprise française développe sur le territoire un faisceau de compétences et de rôles. Donc ça, c'est très important, ça fait partie des externalités positives et de la notion d'entreprise citoyenne. Une entreprise citoyenne développe sur le territoire un faisceau de compétences et de rôles, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur un territoire pour rien, elle est ancrée dans le territoire et elle fonctionne avec les individus et l'environnement et les infrastructures déjà présentes. Et ensemble, elles arrivent à faire de la société, de l'environnement et du paysage quelque chose de bien. Et puis, donc, l'article 7 et l'article 8 vont ensemble. Et l'article 9 consacre le tout au final. Toute entreprise située sur le territoire s'analyse en termes d'approche systémique et fait elle-même partie de systèmes et de sous-systèmes plus élargis. Donc, je pense que tout le monde a compris ce que c'était qu'une approche systémique. Un territoire est formé de systèmes. Il faut, si on veut comprendre son fonctionnement, il faut raisonner en termes d'approche systémique avec des systèmes et des sous-systèmes. Et l'entreprise, qui est elle-même un système, un sous-système, fait partie d'un ensemble de nature systémique plus élargi. Article 10, toute entreprise intègre et tient compte d'un facteur de production supplémentaire, le facteur foncier. Il intègre des éléments nécessaires au réencastrement économique avec le territoire, tels que l'environnement ou encore la dimension esthétique du paysage. Article, donc, ça c'est très important. Jusqu'ici, le facteur foncier était exclusif. C'était le seul facteur de production. C'était un facteur de production qui était utilisé seulement en agriculture. À partir de maintenant, avec la charte éthique de l'entreprise, je souhaite que le facteur foncier soit un facteur de production qui s'ajoute à la fonction de production de Cobb Douglas, comme on l'a fait pour le progrès technique. Mais c'est un facteur environnemental. Derrière le facteur foncier, il y a une notion à caractère environnemental élargie. Ça, c'est très très important. Et donc, le facteur foncier intègre des éléments nécessaires au réencastrement économique avec le territoire, tels que l'environnement ou encore la dimension esthétique du paysage. Article 11. Les entreprises situées sur le territoire français se voient appliquer une clause de subsidiarité quant à la provenance de leurs biens d'investissement ou importation, qui va du plus petit territoire en local au territoire le plus élargi. En matière d'échange international, les zones Organisation des États indépendants et autonomes et Nouvel Alignement sont privilégiées. Donc là, en fait, cette clause de subsidiarité veut dire que ce qu'on a fait jusqu'ici avec l'agriculture et la politique alimentaire territoriale, on va devoir désormais le faire avec l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises qui sont installées sur le territoire, ou les grandes entreprises qui font des économies d'échelle, mais pour lesquelles on a préféré le statut SCOP ou SIC, avec la participation au capital de l'entreprise des salariés, elles vont devoir d'abord fournir les gens qui sont sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'on se ferme et qu'on vit en autarcie, ni qu'on a moins de produits et moins de choix de consommation. Ça veut tout simplement dire que ces entreprises, elles vont d'abord fournir les gens sur le territoire, et puis après elles iront s'exporter, elles iront vendre ailleurs que dans leur territoire à elles, en France, et puis après, elles exporteront à l'extérieur. Et puis, elles exporteront pas n'importe où, elles exporteront d'abord dans la zone que j'appelle Organisation des États indépendants et autonomes. J'ai déjà expliqué de quoi il s'agissait. Là, c'est une nouvelle organisation qui ne concurrence pas l'ONU, mais qui essaye de jouer avec elle sur d'autres tableaux, en s'inspirant un petit peu des accords de la Havane, et puis des accords de 1955 à Bandung. Elle est très importante, cette charte. Elle est très importante, cette organisation des États indépendants et autonomes, parce que c'est dans son cadre qu'on va mener en place de nouveaux accords commerciaux qui s'inspirent beaucoup de ceux de la Havane, plus éthiques et plus justes. De façon à concurrencer des organisations mondiales comme l'OMS, le G8, le G7, etc. Et peut-être pas seulement les concurrencer, mais les compléter. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, il faut raisonner en termes de coopération. Le nouvel alignement fait allusion à mon autre livre d'économie dont je vous ai parlé, qui s'appelle « Le nouvel alignement monétaire », qui évoque ce qui pourrait arriver si la France quittait la zone euro pour créer une zone Union européenne sud avec les pays du sud, où chacun reviendrait à son vrai taux de change, puisque actuellement on voit bien que l'euro ça fonctionne pas très bien et que les pays du sud ont des taux de change, ont des économies qui ont du mal à se connecter des pays du nord, et elles souffrent. Je veux parler de l'Allemagne, des Pays-Bas, de tous ces pays du nord. Voilà. Donc, j'en reparlerai à d'autres reprises. Article 12, les entreprises agricoles françaises. Donc, c'était juste pour dire que cette clause de subsidiarité qui veut que les entreprises de territoire fournissent d'abord et déjà pour premier marché leur territoire à elles. C'est un principe très important si on veut relocaliser l'économie et si on veut en arrêter avec les agissements des grandes multinationales qui, nous l'avons rappelé, segmentent les marchés sur le plan international, empêchent les marchés d'être parfaitement pénétrables par toutes les entreprises qui peuvent exister, créent des monopoles et des oligopoles, entravent la libre concurrence. On va ensuite mettre leur argent dans les paradis fiscaux. Si on veut les neutraliser, il faut appliquer ce principe de subsidiarité qui, je le rappelle, commence déjà à faire son trou au niveau de la mentalité, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, notamment avec une recrudescence après le Covid-19, qui vont acheter local, notamment pour manger. Donc, voilà. Je vais vous passer une musique maintenant, parce que ça fait un petit moment que nous parlons, tous ensemble. Enfin, c'est surtout moi qui parle, mais bon, comme d'habitude. Je vais mettre un groupe, intéressant. Je vais vous mettre le groupe Queen et on va se mettre de Queen A Night at the Opera. Donc, c'était A Night at the Opera du groupe Queen, un groupe, un fameux groupe qui a une belle histoire. Nous en étions à l'article 12 de la charte de l'entreprise éthique. Donc, je rappelle, cette charte de l'entreprise éthique, il faut absolument mettre en place une charte de ce type-là. Parce que si on ne met pas en place une charte pour imposer aux entreprises qui sont sur notre territoire et qui donc nous doivent quelque chose, à nous, société française, nous devons absolument leur montrer que ce n'est pas elles qui commandent, qui gouvernent notre pays et que nous sommes capables de légiférer de manière suffisante pour que de légiférer et d'imposer nos vues, autrement, elles peuvent partir ailleurs. Tant pis pour elles, elles peuvent aller ailleurs, nous, on s'en fout. Surtout si on pratique la méthode du nouvel alignement monétaire. Alors, avec le nouvel alignement monétaire, si on fait ce que je propose, on ne devra plus rien à personne. Parce que, de toute façon, je l'ai déjà dit, il ne faut pas avoir peur de ça, puisque les ressources sont en abondance dans la nature. Nous sommes nombreux, on est capable de faire de notre pays quelque chose de bien. Et peut-être même, nous, Français, d'être dans l'histoire le pays qui a réussi à mettre fin aux multinationales et au grand capitalisme. Chose, ça fait très longtemps qu'on cherche à faire dans l'histoire du monde. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir recherché à faire cela. Il y en a qui ont essayé de le faire, par exemple en ex-URSS, mais ils s'y sont très très mal pris, et donc ça a conduit à quelque chose d'encore pire que le capitalisme. Et donc nous, Français, pourrions montrer que nous sommes capables, que nous avons l'intelligence, nous qui avons eu parmi les conseillers de nos rois, Oresme, qui s'inspirait d'Aristote, celui qui est le premier à avoir écrit un vrai traité d'économie, et qu'il a relié à un autre traité très important qui était le politique, parce qu'il avait compris que l'économique et le politique fonctionnaient ensemble. Et puis il en a écrit un troisième qui s'appelait l'éthique à Nicomaque, comme pour mieux montrer que la troisième roue du carrosse, le troisième angle du grand triangle, c'était effectivement l'éthique, que l'économique et le politique étaient les méthodes à mettre en place pour qu'une société fonctionne bien, pour que les individus puissent être épanouis et puissent être évolués, pour mettre en place une civilisation. Et il a bien montré, avec l'éthique à Nicomaque, que tout cela devait être sous-tendu par une éthique. Or, aujourd'hui, si on regarde notamment ce qui s'est passé avec le Covid-19, je pense que nos auditeurs sont d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a absolument aucune éthique. Aucune éthique dans le fait que, par exemple, lorsque vous avez des millions qui sont et des milliards qui sont investis dans de la recherche, dans de grands laboratoires européens, et je pense à l'Institut Pasteur qui est français, mais aussi à tous les laboratoires P4 et autres laboratoires inconnus du grand monde, qui fonctionnent dans le monde et dans lesquels on investit des milliards pour faire des virus qu'on pourrait ensuite inoculer aux Africains pour faire moins de monde en Afrique. Ça, si vous regardez bien sur Internet, chers auditeurs, vous en avez beaucoup. Il y a énormément de vidéos qui montrent des témoignages de gens qui ont vécu en Afrique et qui peuvent témoigner comme quoi on a inoculé volontairement à des gens en parfaite santé, sous un prétexte, en leur racontant n'importe quoi, des virus, et puis qu'après ces gens-là sont tombés malades et beaucoup sont morts. C'est ce qu'on a fait avec le sida. Enfin, en allant se renseigner sur Internet, on a toutes les réponses. Donc, est-ce qu'il y a une éthique derrière tout ça? Est-ce que vraiment vous pensez, chers auditeurs, que l'industrie pharmaceutique est là dans le monde pour œuvrer pour le bien des uns et des autres? On voit bien aujourd'hui avec la pandémie et l'épidémie de Covid-19 que c'est le contraire. Alors, le secteur pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique n'est pas le seul à fonctionner de cette façon-là. Dans tous les secteurs de l'économie, qui sont tous maîtrisés par des grandes multinationales, à la botte desquelles sont tous nos gouvernements, y compris le nôtre, il ne faut pas se leurrer, les différents présidents qui se sont succédés les uns après les autres, sont certainement des gens très sympathiques. Des gens, est-ce que vous pensez, Français, que nous devons continuer à essayer de ressembler à ces gens-là? Effectivement, ce sont des gens comme vous et moi qui ont tous une vie, mais s'ils sont là, c'est parce qu'ils obéissent aux intérêts, encore une fois, des grandes multinationales. Il n'y a aucune autre raison. Les élections sont truquées et manipulées et on fait en sorte, de manière très habile, la dernière fois, on a fait en sorte qu'il y ait un grand débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron, comme ça on faisait double emploi, ça faisait gagner de l'argent à la chaîne de télévision qui organisait les débats, notamment le dernier, parce que ça fait un audimat sans précédent. Et puis voilà, c'est, on a comme ça, on savait que de toute façon les gens allaient quand même voter Macron pour pas qu'il y ait Marine Le Pen. Mais que va-t-il se passer la prochaine fois? Est-ce qu'on va finir par accepter qu'il y ait Marine Le Pen? Ça, c'est quelque chose, chers électeurs, auquel on doit penser. Je pense peut-être qu'aujourd'hui, ce qui se passe, le Covid-19, c'est pour avaliser, pour que les Français acceptent finalement, après tout ce qu'on a vécu, on peut pas faire pire, on va finir par voter Marine Le Pen. Vous comprenez ce que je veux dire? Sachant que le Front National a commencé son ascension après la guerre d'Algérie, grâce aux Pieds Noirs et à l'ex-OAS, et que l'ex-OAS est toujours là aujourd'hui, qu'elle essaie toujours de diriger en Algérie grâce au trafic de drogue et grâce au trafic d'armes, et que ce trafic d'armes, il y a, c'est entre l'Algérie et la France notamment, que ces gens-là n'ont pas été punis alors qu'ils ont volé des armes en France pour les faire passer aux djihadistes en Afrique, et puis que ces gens-là essayent maintenant de prendre le pouvoir chez nous en France. Donc je pense que pourtant je m'appelle Noura, hein, et pourtant je suis française, j'ai une carte d'identité française, je suis née en France, je n'ai absolument pas honte devant une personne qui est du Rassemblement National et qui a contribué à inciter les djihadistes à venir faire du terrorisme chez nous pour pouvoir gagner les élections un jour. Je n'ai pas honte du tout de lui dire, c'est à elle d'aller en prison et pas à moi, quoi que j'ai fait. Et j'ai hâte, mais vraiment hâte, que ces gens-là, un jour, y aillent, que ces gens-là soient sévèrement punis, que ces gens-là qui ont tout fait pour que nous, en France, dans le monde, il y ait une pandémie, et qui ont tout fait ensuite pour qu'on ne fasse pas les choses correctement, de façon à ce qu'il y ait le maximum de morts chez nous, aillent en prison et soient punis. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit ces gens-là qui commandent. Et je n'ai absolument pas honte de moi, et je suis plus française que ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas français, puisqu'ils agissent contre les intérêts de la France. Donc, et ces gens-là fonctionnent avec les multinationales. Et ils se sont beaucoup servis aussi de la résistance, parce que beaucoup ont infesté la résistance après avoir collaboré pendant 4 ans. Et puis la dernière année, voire les 6 derniers mois, pour certains c'était même les 15 derniers jours, ils ont intégré la résistance. Et maintenant, c'est eux qui essayent de commander chez nous. C'est honteux. Il y a qu'à écouter et aller regarder les vidéos de Annie Lacroix-Ruiz, où vous verrez, en regardant ses vidéos et ses émissions, elle explique très bien que la France est un pays de collabos, qu'on a été infesté par les collabos. Ce qu'ils ont appelé l'épuration, c'était juste de la cruauté pour que la population puisse se défouler sur 2 ou 3 malheureuses innocentes ou victimes de la guerre. Mais les vrais coupables, ceux qui s'en sont mis plein les fouilles et qui aujourd'hui essayent de commander chez nous et agissent contre les intérêts de la nation, eh bien ces gens-là n'ont jamais été punis. Et c'est de leur faute à eux ce qui s'est passé avec le Covid-19. Et ce qui va arriver après, c'est de leur faute à eux aussi. Voilà. Donc, je continue avec la charte de l'entreprise éthique. Article 12. Les entreprises agricoles françaises font l'objet de politiques harmonisées en matière agricole avec les autres pays européens. Cela s'oppose à toute politique arbitraire venant rompre avec la nature de l'agriculture française. N'autorise pas les monopoles ni les subventions injustifiées, donnant lieu à des prises d'intérêt et à la corruption sur le marché, notamment des denrées alimentaires. Priorité est donnée conformément à la position française dans le cadre de l'Organisation des pays indépendants et autonomes, aux communautés économiques locales, à l'autosuffisance alimentaire et aux petits producteurs, ainsi qu'à l'échange équitable avec les pays les moins développés. Voilà, je le rappelle quand même, c'est beau, écoutez-moi ça. Une entreprise qui veut être française, qui veut mériter d'être française, doit avoir un comportement citoyen, répondre à une éthique. Et je répète ce que je viens de dire, les entreprises agricoles françaises font l'objet de politiques harmonisées en matière agricole avec les autres pays européens. Cela s'oppose à toute politique arbitraire venant rompre avec la nature de l'agriculture française, Non, parce que là, c'est contre les industries agroalimentaires, où là aussi, vous savez qu'il y a eu des grands, grands, grands scandales. Quand vous achetez des steaks à Lidl, messieurs, dames, je vous dis et vous répète que vous mangez de la viande avariée, de la viande de mauvaise qualité. Il vaut mieux être végétarien, ça coûte moins cher. Donc cela s'oppose à toute politique arbitraire venant rompre avec la nature de l'agriculture française, n'autorise pas les monopoles, ni les subventions injustifiées, donnant lieu à des prises d'intérêt et à la corruption sur le marché, notamment des denrées alimentaires. Là, bien entendu, je veux évoquer les quelques scandales qui ont eu lieu, parce que justement, ce sont les multinationales qui nous nourrissent dans les supermarchés avec les plats tout préparés, les steaks hachés, enfin tous ces... toutes ces bonnes choses qu'on nous donne à manger sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a dedans. Priorité est donnée, conformément à la position française dans le cadre de l'Organisation des pays indépendants et autonomes. Alors, là, je rappelle, allez voir un de mes blogs. Je vais vous donner tout de suite les adresses de mes blogs où vous avez tout sur l'Organisation des États indépendants et autonomes, parce que ça ferait l'objet d'au moins 4 ou 5 émissions de vous expliquer, chers auditeurs. Donc peut-être que je le ferai un jour, si un jour c'est d'actualité. Mais pour l'instant, j'ai juste vous donné le nom de mon blog. Enfin, j'en ai plusieurs. Donc déjà, il y a le blog des États indépendants et autonomes. Donc ce blog-là, il a pour adresse, je vous le donne tout de suite, OIA 2018.blogspot.com, le tout en minuscule. Je rappelle, OIA 2018.blogspot.com. Voilà, ça c'est pour l'Organisation des États indépendants et autonomes. Donc voilà, ensuite j'en ai un autre qui s'appelle Respublica. Donc dessus, il y a tout sur l'Organisation des États indépendants et autonomes. Il y a beaucoup d'articles. J'écris pas mal d'articles. Respublica999.blogspot.com. Le tout en minuscule. Respublica, ça s'écrit R-E-S-P-U-B-L-I-C-A 999.blogspot.com. Voilà, sur ces deux blogs, vous avez déjà pas mal de choses. Après, il y en a d'autres, mais je ne veux pas trop en dire aujourd'hui. Simplement, je veux dire, je pense que vous avez compris que je suis quand même très républicaine et très attachée à ce que la République française montre qu'elle n'est pas n'importe qui. Parce que si on continue comme ça, la semaine dernière, je rappelais le traité d'Aix-la-Chapelle où la France délègue pratiquement à l'Allemagne son rôle au Conseil de sécurité, notamment parmi les membres permanents, et l'exclusivité de sa bombe nucléaire, alors que l'Allemagne, à cause de ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'y a pas droit. Donc l'Allemagne a ainsi habilement manœuvré, certainement faisant du chantage à la France en lui disant qu'elle allait passer du côté de l'Est, c'est-à-dire des pays eurasiatiques, si elle ne la suivait pas. Eh bien, là-dessus, l'Allemagne, qui s'est toujours bien entendue pour faire croire aux Français que sans elle, ils ne pouvaient rien faire et qu'ils étaient rien, est en train de gagner. Donc, c'est pour ça que c'est très important que la France montre qu'elle a du caractère et qu'elle mette en place l'organisation des pouvoirs des États indépendants et autonomes et le nouvel alignement monétaire. Et je pense qu'il n'y a aucune autre solution. Et donc, la République française, c'est pas n'importe quoi. Nous avons une histoire à défendre. Et en ce moment, on est en train de complètement oublier notre histoire. Il y a aussi autre chose. Nous avons été sous la coupe du plan Marshall de 1945 à peu près 1960. S'il n'y avait pas eu le général de Gaulle, ça aurait été encore pire. Le général de Gaulle, qui a dû beaucoup obéir aux Américains jusqu'à cette époque-là, a pu, entre 1960 et 1969, même s'il avait fait des choses avant, commencer à envisager sérieusement de mettre en place les parties les plus osées du programme du Conseil national de la Résistance, comme notamment la participation dans l'entreprise, mais aussi la mise en valeur de la région comme entité territoriale de base. Et donc, il a été limogé, bien entendu, suite à des tactiques menées encore une fois par les États-Unis, visant à discréditer les pouvoirs en place, en essayant, sous prétexte qu'on allait rendre les Français plus ouverts et en faisant un montage médiatique pour que, sous l'égide de mai 68, le général de Gaulle paraisse comme l'épouvantail à moineaux qui cherchait à empêcher les Français d'aller dans la voie de la modernité en pratiquant le Kama Sutra ou l'échangisme au sein des communautés dans lesquelles les gens vivaient, parce que bien sûr, il fallait vivre différemment et vivre en communauté. Alors, on s'échangeait les partenaires entre nous, et puis aller fumer de l'opium à Katmandou, parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas de chômage, tout le monde pouvait se permettre d'aller à Katmandou. Voilà l'héritage de mai 68 qu'on subit encore grâce à une certaine frange de la classe médiatique et politique française qui se veut gauchiste jusqu'au bout. Pourtant, moi, j'ai rien contre la gauche, mais je ne suis ni à gauche ni à droite. Mais quand je parle de gauchisme, je sais de quoi je veux parler. Et donc, aujourd'hui, on est en train de recommencer la même chose, puisque par l'intermédiaire du Covid-19, les États-Unis vont beaucoup aider sur les marchés financiers, et notamment ce qui concerne la France, à remonter la pente. C'est comme s'il y avait un nouveau plan Marshall. Donc, on va encore se taper au moins une vingtaine d'années d'obéissance aux Américains. Je pense que tout le monde a compris que ça, cet enjeu-là, il était fondamental, que c'était très très important de le comprendre, que c'était très important de rester indépendant et autonome, et qu'on ne peut pas faire autrement, nous Français, parce qu'on a beaucoup de valeurs. Si on est sous l'égide de qui que ce soit les Américains, les Chinois, l'Allemagne, ça ne se passera pas bien. Voilà. Et donc, il n'y a que avec les pays du Sud et l'Afrique, qui ont des économies qui nous ressemblent parce que nous sommes latins, qu'on peut arriver à faire quelque chose et à tenir tête au Nord. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent, c'est l'activité et la production de richesses dont on peut être les auteurs chez nous, sur notre territoire. Voilà. Or, on vous ment, Français, on vous ment, chers auditeurs, quand on vous dit qu'on n'a pas les moyens parce que financier ou qu'on n'a pas assez d'argent pour faire ce qu'on veut. C'est pas vrai. Ce que ces gens-là ont l'air de montrer comme étant la richesse elle-même, c'est le contraire de la richesse. L'argent, c'est juste un moyen d'échange qui traduit la valeur monétaire d'un bien ou d'un service et rien d'autre. Voilà. Donc, je continue. Article 13. L'entreprise française favorise le développement et sa participation au réseau d'entreprises mis en place dans le cadre du nouvel alignement et de l'organisation des États indépendants et autonomes en matière coopérative. Donc, j'avais pensé que dans le cadre de l'organisation des États indépendants et autonomes, on allait pouvoir mettre en place des réseaux d'entreprises, des réseaux entre entreprises, des réseaux coopératifs, avec des coopératives en matière de conditionnement et de distribution pour que les produits puissent s'échanger correctement, parce que les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas toujours les moyens d'exporter comme elles veulent. Et puis surtout, pour le conditionnement de leur production, c'est dur. C'est vraiment pas une chose facile. Donc, alors forcément, les multinationales, elles, qui ont beaucoup de moyens, elles utilisent des packaging et des réseaux d'approvisionnement qui fonctionnent, qui sont beaucoup plus efficaces. Et donc, elles coupent le circuit sur les marchés aux petites et moyennes entreprises. Donc, moi, ce que je veux, c'est remplacer le paradigme de la grande entreprise multinationale par celui de la petite et moyenne entreprise. Et de partout. Voilà, c'est pour ça que je parle de réseaux d'entreprises qui soient transfrontaliers, notamment entre là où, par exemple, vous avez des petites entreprises africaines qui se montent sur les énergies renouvelables, dans lesquelles Total a réussi à avoir, même si c'est une petite et moyenne entreprise, parce que c'est leur stratégie actuellement, puisqu'ils voient bien que les multinationales sont mal vues, qu'on essaye de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises. Donc, les gros opérateurs, comme Total, vont aller se mettre dans le capital des petites et moyennes entreprises. Alors, quand c'est les énergies renouvelables en Afrique, c'est encore mieux. Alors là, c'est vraiment alléchant, quoi, parce que là, ils vont pouvoir bouffer toutes les parts de marché, mais ça revient au même. C'est comme si c'était, on était toujours sous le règne des multinationales. C'est une autre stratégie qui se développe. Et donc, quand vous avez Total qui a 50% d'une petite et moyenne entreprise sur les énergies renouvelables en Afrique, qui se met en place, monté par quelqu'un qui est issu de la diaspora, qui est citoyen français, mais qui a voulu monter une entreprise dans son pays d'origine, eh bien, là, on peut se dire que cette réforme dont je parlais, consistant à favoriser les petites et moyennes entreprises sur le territoire, les entreprises des territoires, est un échec. Pourquoi ? Parce que normalement, ce genre d'opération devrait être interdit. Voilà. Article 14, les regroupements de petites et moyennes entreprises sont favorisés afin de réaliser des économies d'échelle et correspondre à un nouveau code des marchés publics pour les collectivités locales et l'État. En matière de marchés publics, l'entreprise française participe, grâce au groupement d'entreprises réalisé dans le cadre du nouveau code des marchés publics, qui exclut les monopoles ou les prises illégales d'intérêts et la corruption. Donc ça, c'est très important. Le code des marchés publics, on sait que tous nos grands chantiers en France ou ceux qui sont commandités par la France dans les pays notamment africains sont faits par toujours les mêmes entreprises, Veolia, Bouygues Télécom, Orange, Bolloré, etc. Donc tous ces gens-là, normalement, on devrait leur couper le circuit en modifiant le code des marchés publics, en commençant par chez nous et en faisant en sorte que un marché public puisse être obtenu par un gros regroupement coopératif de petites et moyennes entreprises qui fonctionnent, qui sont dans le même secteur d'activité ou des secteurs d'activité complémentaires et qui puissent mutualiser et faire de la coopération avec leurs moyens à elles de façon à pouvoir prendre en charge les grands chantiers, parce que jusqu'ici, les petites et moyennes entreprises ne pouvaient pas aller sur les grands chantiers, sauf en ce qui concerne la sous-traitance. Donc à ce moment-là, c'est la grande multinationale qui délègue en payant un coup de lance-pierre et qui reste quand même le maître d'ouvrage. Alors, ce que je veux, c'est que les petites et moyennes entreprises puissent proliférer d'abord des organismes de coopération en matière de production d'économie d'échelle et ensuite, par exemple, un peu comme la CUMA en agriculture, la coopérative d'utilisation de matériel agricole. Que font des agriculteurs qui ont besoin du matériel le plus perfectionné pour produire ? Est-ce qu'ils s'endettent pour toute leur vie et pour les générations futures en achetant les moissonneuses-batteuses et les machines les plus onéreuses ? Eh bien, non, ils ne s'endettent pas. Ils créent une coopérative d'utilisation de matériel agricole dans laquelle il y a plusieurs entreprises agricoles qui participent, qui sont membres, et chacune payant sa part pour pouvoir acheter les meilleurs matériels. Et ensuite, elles se prêtent le matériel. Voilà. Donc, il faut faire pareil pour les petites et moyennes entreprises dans les bâtiments et travaux publics, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à faire toujours travailler les mêmes personnes qui cumulent l'essentiel du capital et qui finalement créent beaucoup moins d'emplois que le nombre d'emplois qui seraient créés par l'extension des petites et moyennes entreprises. Voilà. Et leur accès ? Un accès qui leur serait favorisé sur les grands chantiers dans le cadre des marchés publics. Article 15, le recours aux marchés financiers est encadré. On y reviendra la semaine prochaine où on parlera de ma quatrième solution qui est le rapport Bett-Bes-Bord ainsi que Stiglitz sur les marchés financiers, la régulation des marchés financiers et boursiers. Et ça, on en parlera la semaine prochaine parce qu'on ne va pas avoir le temps, ça passe très vite. Donc, j'ai quand même mis dans mon article 15, la charte de l'entreprise éthique, le recours aux marchés financiers qui doit être encadré. Article 7 de la charte de l'entreprise éthique. L'entreprise française répond à des critères éthiques définis dans la Constitution française, notamment sur des valeurs telles que l'égalité, la liberté, l'exigence de mixité et de laïcité. Elle est ainsi partie prenante des valeurs de la République. C'est un acteur sociétal républicain. Ça, c'est très important. C'est même fondamental et je pense que dès qu'une entreprise se crée, elle doit répondre à un cahier des charges elle répond d'abord à un cahier des charges environnemental. Je pense que là, on va être de plus en plus exigeant et que la présence de cahier des charges environnemental va devenir de plus en plus prépondérant et ne va pas seulement concerner les quelques rares entreprises agricoles qui décident de faire du bio. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais, donc qu'il y ait ce cahier des charges environnemental, je voudrais qu'il y ait aussi un cahier des charges citoyen pour toutes les entreprises qui ont une présence sur le territoire français. D'abord pour celles qui se créent, quelle que soit leur taille. Mais ensuite aussi pour celles qui veulent avoir des parts de marché chez nous. Je voudrais qu'elles correspondent, qu'elles répondent à ce cahier des charges. Les entreprises françaises qui ont une citoyenneté française, et la notion de citoyenneté pour les personnes morales doit aussi exister. Là-dessus, c'est très important. Si ça ne se passe pas bien dans le monde, et chez nous en France, c'est parce que la notion de citoyenneté, elle est exclusivement réservée aux personnes physiques. Ça commence avec l'état civil. Dès que vous êtes enregistré le jour de votre naissance à la mairie, par votre papa souvent, parce que votre maman est encore sur le lit parce qu'elle vient d'accoucher. Et puis, je dis souvent, hein, attention, il y a des gens qui n'ont qu'une maman, donc à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui se charge de l'enregistrement sur le registre d'état civil. Mais pour les personnes morales, il n'y a aucune obligation de citoyenneté. Et je pense que nous devrions obliger toutes les entreprises qui veulent avoir la nationalité française à se plier aux exigences, aux lois de la République et à avoir une carte d'identité française et une nationalité française. Et pour répondre à des critères éthiques qui sont constitutionnels, donc bien entendu il y a la règle d'or budgétaire qui n'a pas encore été constitutionnalisée mais on a parlé de le faire. Cette règle d'or budgétaire, c'est normal qu'on ne l'ait pas encore constitutionnalisée. On ne va pas constitutionnaliser des principes qui ne sont pas encore mis en place. On est encore loin d'y arriver, parce qu'au moment où ça allait mieux, justement, notre déficit se creuse encore davantage par l'intermédiaire du Covid-19. Mais on va y arriver. Et donc, à ce moment-là, on pourra mettre la règle d'or. Mais la règle d'or, ça peut attendre, mais on peut quand même exiger dans la Constitution française que les entreprises respectent le principe d'égalité, de liberté, de mixité, de laïcité. Elles sont partie prenante des valeurs de la République. Et j'allais rajouter, il y a aussi un autre principe que je voudrais qu'on constitutionnalise, c'est le principe d'éthique, qui devrait d'ailleurs être un principe fondamental des lois de la République. Et les entreprises françaises devraient aussi obéir à ce principe d'éthique qui se rapporterait dans la loi organique afférente, suite à la révision constitutionnelle concernée, à la loi organique, à la charte, justement, cette charte d'entreprise éthique que je suis en train de vous lire. Voilà, je vais être obligée de m'arrêter là parce que je vais dépasser. Donc la semaine prochaine, on finira la charte de l'entreprise éthique. Il y a encore plusieurs articles. Et puis après, je passerai justement à ma quatrième solution, les politiques de régulation financière et monétaire. Et là, on parlera des rapports Stiglitz, Betsbes et Bord qui ont été mis en place des théoriciens du secteur financier. Et elles ont été mises en place suite à la crise des subprimes de 2008 où on cherchait à réglementer les marchés financiers. Et puis, juste avant la crise du Covid-19, ça recommençait à pas bien se passer parce qu'il y avait à nouveau une dérégulation, parce qu'on n'a pas suivi correctement les principes qui avaient été mis en place, qui avaient été définis par les auteurs, les économistes dont je viens de vous parler. Justement parce que c'est toujours les multinationales qui finissent par prendre le dessus. Chers auditeurs, chères auditrices, bonne première semaine de déconfinement. Sortez pas trop, postillonnez pas trop, oubliez pas vos masques quand c'est le moment et surtout profitez de la vie. Au revoir.